Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici donc dans ce dimanche, dans un temps de l'Avent qui est écourté cette année. En effet, dimanche prochain, quatrième dimanche de l'Avent, sera le jour de Noël au soir. Alors n'essayez pas de tricher et de vous dire qu'en venant à la messe le dimanche soir, vous aurez et le dimanche et Noël. Nous avons à avoir une certaine générosité, cette générosité de ce temps de l'Avent qui est dans la couleur de la pénitence, le violet, mais qui est déjà dans l'espérance de ce violet qui tire sur le rose, qui est dans cette clarté, car nous anticipons la venue de notre Seigneur. Nous anticipons cette joie et cette libération que fera le Messie de tout ce qui peut nous rendre tristes sur cette terre. Oui, nous avons à aller deux fois à la messe, dimanche et Noël. Dimanche parce que c'est le jour de la résurrection, Noël parce que c'est le jour anniversaire de la venue de notre Seigneur sur cette terre. Oh, notre Seigneur était là déjà depuis 9 mois, depuis le 25 mars, depuis cette annonciation, depuis l'incarnation, et la Vierge Marie l'a porté pendant ces 9 mois jusqu'à ce 25 décembre. Cette attente qui est celle aussi de Saint Joseph, que l'on oublie un peu dans ce temps de l'Avent, et qui est pourtant à nouveau encore cette ombre avec Marie, cette ombre de cette espérance humaine, de cette attente. Une attente qui est la nôtre dans notre vie quotidienne et dans l'enchaînement des générations. Alors nous devons méditer aujourd'hui pour nous préparer seulement en une semaine maintenant à Noël, l'attente. Et l'attente dans une joie anticipée. L'attente, c'est le fait même de ne pas être satisfait. C'est de ne pas atteindre tout de suite la joie parfaite, la joie tout entière. Attendre, c'est ne pas être satisfait, c'est-à-dire de ne pas faire ce qui est assez, de ne pas le faire nous-mêmes et de ne pas le recevoir des autres. Nous ne sommes pas satisfaits de notre vie de famille lorsqu'il manque quelque chose. Lorsque nos parents ne sont pas Dieu, lorsque nos parents ne nous donnent pas le meilleur, ne nous donnent pas ce qu'il y a de plus parfait chaque jour. Le bébé lui-même ressent cette imperfection. Il est mal à l'aise, il demande à être nourri, il demande à être lavé et il pleure. Déjà, cet exemple, on vous l'a donné 100 fois, mais il doit être médité 100 fois. Parce que lorsqu'on voit un bébé pleurer et que nous ne sommes pas là pour satisfaire ses caprices, mais satisfaire son besoin d'être nourri, son besoin d'être lavé, d'être à l'aise, d'être dans la propreté, car il sent ce qui est mauvais pour lui. Il veut ce qu'il y a de bon. Et c'est le cœur même de l'homme qui l'accompagne dans son enfance, dans son adolescence, pour avoir ce qui est bon et même ce qui est parfait. Oui, nous sommes insatiables de ce qui est parfait, de ce qui irait au mieux dans notre vie. Nous voudrions apprendre avec facilité. Dans des pays où l'éducation s'est développée, où on apprend tous à lire, à écrire, à compter, alors même que pendant des siècles, combien de personnes ont été heureuses sans avoir à lire, à écrire et à compter. Mais de nos jours, en effet, cela est devenu presque indispensable et nous sommes poussés et poussés encore. Et cela nous attriste lorsque nous n'avons pas toutes les facilités pour lire, écrire et surtout compter. Parce que pendant des décennies, il nous a été demandé de connaître parfaitement les mathématiques et nous avons souffert pendant des années parfois à vouloir tout compter. Mais nous sommes dans un monde qui sélectionne, nous sommes dans un monde qui donne des nécessités. Alors même qu'une vie plus simple, une vie de famille, une vie aussi dans la province, dans la campagne, était plus importante qu'une vie urbaine où tout le monde est rassemblé et où nous n'avons pas cette vie plus calme et finalement parfois plus exigeante, avec plus de travail régulier, mais qui nous permet ensuite d'être apaisés le soir. Nous vivons dans un monde qui nous bouscule, et si nous avons un âge qui nous a préservé des courriels, des emails, des messages, des SMS, des sollicitations, de toutes ces images multiples, de toutes ces informations qui nous accablent ou qui nous intéressent, qui épuisent et saturent notre curiosité, au point justement où nous n'arrivons pas à la satisfaction, c'est-à-dire à ce qui est nécessaire, mais suffisant aussi, pour que nous puissions être paisibles et heureux. Tout cela dans notre famille, tout cela vis-à-vis de nos parents, quel que soit notre âge, quelle que soit leur santé, la relation avec nos amis, la manière dont nous partageons du temps avec eux et dont nous partageons de nos jours tant d'images et d'informations. Le bonheur, en effet, demande, exige plein de petites choses qui doivent arriver à notre satisfaction, encore une fois. Mais alors, que nous apporte Noël? Que nous apporte la réponse de Dieu? Saint Joseph, lui, était un artisan, était un charpentier. Il a vécu de son travail paisiblement. Et alors même qu'il était, il n'était plus un jeune homme, on lui a présenté la Vierge Marie. Il aurait pu, finalement, ne pas se marier, mais en son temps, ne pas se marier était une blessure, était une attente. Il fallait offrir à Israël une descendance. Il fallait offrir au peuple hébreu la force du nombre, des familles et des enfants. Nous-mêmes, en Europe, nous avons cette faiblesse de ne plus avoir d'enfants, de ne plus avoir de familles, aussi nombreuses, aussi fortes, aussi patientes qu'autrefois. Alors, plutôt que d'être nostalgiques, tournons-nous justement vers cette spiritualité, vers cette force d'âme d'un Saint Joseph. Lui qui n'attendait plus ce mariage, eh bien, on lui a trouvé une épouse. Il était heureux de voir cette jeune femme qui, dans sa piété, allait lui apporter la même paix qu'il cherchait dans sa propre prière. Lui qui était un juif profondément pieux. Et la Vierge Marie d'offrir elle-même sa chasteté et sans doute de la demander à Joseph. C'est pourquoi lorsque nous voyons ce couple, nous nous disons qu'ils avaient déjà anticipé l'au-delà de la vie terrestre. Et pourtant, ils étaient un vrai couple. Ils ont vraiment vécu ensemble. Ils ont partagé leur quotidien. Et même s'ils ont voulu la chasteté, ils ont voulu la vie commune. Ils ont voulu le partage de tous ces moments et tous ces instants. Et Dieu a voulu leur donner un enfant. Un enfant qui était l'espérance, qui était l'aboutissement de la patience humaine et pas seulement du peuple d'Israël. Cet enfant, c'est la satisfaction, c'est la perfection, c'est le bon enfant. C'est l'enfant qui apporte le bonheur. C'est l'enfant qui n'est pas capricieux. C'est l'enfant qui se donne. C'est l'enfant attentif. C'est l'enfant qui dépasse toutes les espérances de ses parents, tout en étant un véritable enfant, avec un corps, avec une âme. Un enfant que l'on doit préserver du froid, un enfant que l'on doit nourrir, un enfant que l'on doit habiller. Oui, cet enfant que nous attendons, c'est Dieu fait homme. C'est la grande réponse de Dieu. C'est la grande réponse du Créateur. C'est la grande réponse du Père. C'est ce qui devrait nous apporter la joie, puisque c'est la preuve que Dieu existe. C'est la preuve qu'il nous a créés. C'est la preuve que le fait d'avoir un père et une mère vient d'un Dieu qui est Père et qui nous a donné son Fils et qui nous a même donné une mère. Oui, encore une fois et mille fois, la vraie religion doit ressembler à la vie, à la vraie vie. Un père, une mère, un enfant. Alors vous me direz, c'est pas une famille nombreuse. Oui, mais cela accomplit l'amour d'un père et d'une mère, l'amour d'un enfant, ce que nous devons partager et ce que nous devons diffuser dans notre famille, au point que nous sommes tous frères et sœurs, au point que tous nous sommes appelés à reconnaître que Dieu s'est fait homme. Oui, aujourd'hui, et encore une fois et mille fois, Saint Jean-Baptiste est là et il répond. Il répond à une attente religieuse. Et il répond à des promesses. Promesses d'un sauveur, le Messie, celui qui devait être envoyé. Promesses d'un prophète, celui qui doit annoncer et le bonheur. Promesses d'Élie. Et voyez encore une fois ce vitrail qui est au-dessus du maître-autel. À la gauche du Christ, il y a Moïse. À la droite du Christ, il y a Élie. Et 600 ans après le ravissement d'Élie par les anges, le peuple hébreu savait qu'il devait revenir. Et nous, dans notre théologie, nous savons qu'avant la fin du monde, Élie doit revenir pour enseigner les juifs et les musulmans, pour qu'ils puissent se convertir, pour qu'à Jérusalem, ce soit la ville du grand roi, la ville de l'enfant né à Bethléem, la ville de celui qui est mort au-delà des murs et qui est ressuscité. Cette révélation et cette espérance et cette attente qui devrait être le message profond de tous les évêques, de tous les prêtres, pour proposer la grâce à tous les juifs et à tous les musulmans, pour que le patriarche Enoch puisse proposer cette grâce à tous les animistes, à tous les bouddhistes, à tous les hindous. Oui, nous avons dans cette nuit de Noël à proposer à tous ceux qui ont reçu dans les années 20 un autre personnage, le Père Noël, l'enfant Jésus. Oui, cet enfant Jésus, lui, il est l'ancien des jours, le Fils. Il est celui qui va nous donner la réponse du Père. Il va nous donner cette vie quotidienne. Il va nous donner ses 30 ans à Nazareth. Il va nous donner ses 3 ans de béatitude, de promesse, de pauvreté, de libération de notre corps et d'obéissance à la volonté d'un Dieu qui nous demande de pardonner à nos ennemis, de leur souhaiter non pas la prospérité et la santé et une vie longue dans la méchanceté et la haine, mais le salut de l'âme. Oui, une grande différence, c'est que Dieu, lui, demande que nous prions pour le salut des âmes, tandis que les fausses religions sont dans la perte des âmes ou la haine ou une âme qui va errer dans le vide. Non, nous, nous voulons retrouver les êtres chers. Nous voulons reformer nos familles. Nous voulons retrouver nos amis. Nous avons ce désir d'immortalité. Nous avons ce désir de vie éternelle. Et il ne peut pas être déçu. Voilà notre espérance. Voilà cet enfant qui est annoncé par le dernier prophète de l'Ancien Testament, par Saint Jean-Baptiste, qui n'est ni le Messie, ni le grand prophète, ni Élie, mais qui est celui qui annonce l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu que nous recevons à chaque communion. Agneau de Dieu que nous recevons comme Marie l'a porté. Agneau de Dieu que nous recevons comme Marie l'a nourri. Et lui, il nous nourrit dans ce pain qui est transsubstantié, qui n'a plus que l'apparence du pain, dans cette humilité comme celle d'un enfant qui se laisse prendre, qui se laisse saisir et qui vient en nous pour nous nourrir, pour nous éclairer à travers toute l'année, mais plus particulièrement lorsque nous le recevons dans ces grandes fêtes comme Noël. Oui, alors le Christ vient à nous et préparons notre âme par une bonne confession. Nous avons tant de lieux de confession à Paris. Ici même, il y aura des confesseurs, mais nous devons aller chercher cette sincérité, cette vérité, cette semaine pour faire une bonne et sainte communion, pour nous unir à cet enfant dans cette nuit de Noël, pour pouvoir partager cette espérance et la vraie joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.